Bonsoir, vous êtes dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, de 19h à 20h30. On est rediffusé le mercredi de 7h du matin à 8h30 du matin.
C'est le vendredi. Hein.
Ah, le vendredi. Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit, mais peut-être pas. C'est le vendredi en tout cas. Et voilà, on est de retour pour notre entrée un peu en retard. Donc c'est la rentrée de notre émission. Pour la 8e saison, je crois bien, donc au fond près du radiateur.
C'est 8e. Ça, 8e. En fait, on a essayé de calculer, vu que ça commence à faire longtemps et qu'on est vraiment des cancres, qu'on s'appelle vraiment au fond près du radiateur, on s'est vraiment rendu compte que ouais, ça fait 8, 9 ou peut-être 7,5, donc bon, c'est pas trop quoi.
On maîtrise pas les additions encore.
Voilà.
On apprendra cette année. Et donc voilà, bah, cette année, c'est... C'est effectif un peu réduit, quoi. Donc, il y a Tiphaine qui est dans le sud, cette année, qui sera dans le sud, donc qui va participer occasionnellement à l'émission. Il y a Mado et Mathéo qui nous ont quittés vers d'autres chemins. Et donc, voilà, on leur fait, ils font plus partie de l'émission cette année. Donc, on leur fait un big up et on leur souhaite bonne route, quoi. Et donc il y a Yano à la technique ce soir.
Yes, I.
Il y a Tom qui est actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, quoi.
Voilà.
Et qui reviendra d'ici quelques semaines. Et Mouloud qui va bientôt arriver là, qui doit être dans les transports en commun à l'heure actuelle.
Et puis toi-même, Raph, à l'animation ce soir.
Voilà, bonsoir. Et donc de quoi on va vous parler ce soir? Donc on va vous parler en premier de la manifestation et de la mobilisation, enfin de la manifestation de mardi dernier, le 10 septembre, contre la nouvelle réforme des retraites et donc contre la mobilisation qu'on espère qui est en train de commencer contre cette loi. Dans un deuxième temps, on vous parlera des grèves qui ont lieu en ce moment dans le groupe PSA Peugeot Citroën, donc constructeur d'automobiles, et qui a mis en place un accord de rigueur, de compétitivité vraiment hardcore. Et donc, ça fait depuis le 10 qu'il y a des grèves un peu dans toutes les usines du groupe, quoi. Et donc, on vous parlera de ça. Et ensuite, donc, on va vous parler de ce qui s'est passé à Saint-Denis cet été, pendant que tout le monde était en... Enfin, pas tout le monde, pendant que quelques personnes étaient en vacances. Dédicace à ceux qui partent, à ceux qui partent pas, quoi. Et donc, par contre, la mairie de Saint-Denis, sous ses airs... Enfin, voilà, c'est une mairie communiste, mais sous ses airs progressistes ou je sais pas quoi, donc a expulsé plusieurs immeubles et a envoyé la police contre les habitants, donc les a harcelés pendant tout l'été. Et donc, on tenait à dénoncer ça, à raconter ce qui s'est passé pendant ces 2 mois de vacances. Et dans un dernier temps, on parlera d'un événement qui avait été organisé par le collectif Quartier Libre dans le 20e, et donc à l'occasion duquel on a pu prendre un peu de son, quoi. C'était une fête de quartier. Voilà, donc ça sera les 4 sujets de cette émission. Et tout de suite, on va s'écouter un peu de son avec le Gomard, donc c'est une totale exclue au fond près du radiateur. On va écouter ça tout de suite.
Celle non plus marque au cou.
Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et puis bah là, nous, on vient de s'écouter deux morceaux, dont le premier, c'était Ça cache quelque chose, une reprise de rock jouée par le Gomard. Le Gomard, bah là, c'était une vraie exclue Au fond près du radiateur. C'est un son qui sort tout juste de stud. D'ailleurs, faut pas le dire, chut, on l'a pas écouté, mais c'était quand même du gros plaisir dans nos oreilles. Voilà, la suite arrivera très prochainement. Il y aura un petit concert pour fêter tout ça sur Montreuil très bientôt. Et la deuxième chose qu'on s'est écouté, c'est War in a Babylon, vous l'aurez bien entendu, de Max Romeo, voilà, sur Compile Studio One, il me semble, ou non, peut-être pas en fait. Mais bref, c'est encore du gros lourd et un classique qu'on vous a passé pour reprendre nos bonnes habitudes du mardi soir. Nous, donc, on va enchaîner sur le premier sujet de cette émission, sur la réforme des retraites. Voilà, puisqu'il y a une manif le 10 septembre dernier dans Paris, même dans toute la France, il y avait des manifestations, une journée d'action organisée par les syndicats, hein, par les grandes centrales syndicales, bon, qui a vu quand même pas mal de monde se bouger dans la rue. Quand même revenir un peu sur cette réforme dont on va essayer de vous parler et du combat qui va être mené contre cette réforme dont on va essayer de vous parler tout au long pendant cette émission et pendant ces prochaines semaines. C'est quand même, on va pas vous expliquer en long, en large, en travers cette réforme parce qu'il y a plein de points dans le détail qui sont quand même assez complexes et que même nous, on comprend pas très bien. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vraiment... Chaque personne qui à un moment bosse entre guillemets légalement dans sa vie est amenée à cotiser pour éventuellement recevoir une pension de retraite quand il sera vieux, donc à un âge déterminé. Les retraites qu'on a en France, c'est vraiment à la base une idée d'être une mutuelle de solidarité où chaque travailleur, en tout cas, puisse cotiser pour assurer sa pension une fois qu'il aura plus l'âge de travailler. Ce qui est sûr, c'est que concrètement, dans les faits, cette belle idéologie est en train de se dégrader. Il y a eu énormément de choses qui ont touché à ces pensions de retraite depuis des dizaines et des vingtaines d'années par beaucoup de gouvernements qui ont un peu remis en cause ce principe de solidarité. Nous, on se souvient vraiment de manière très proche que c'était en 2010 la dernière fois qu'un gouvernement a proposé de changer et de réformer ce système. Ce qui avait amené à quand même beaucoup de monde dans la rue, à un grand rapport de force et encore à beaucoup de grèves, voire un début de grève générale, mais bref, ça n'avait pas vraiment eu lieu. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit en tout cas le gouvernement depuis ces 30 dernières années, on vient à casser un peu ce système de solidarité qui permet entre guillemets de ceux qui bossent financer le régime des retraites de ceux qui sont déjà et de perdurer un peu cela au fil des générations quoi.
Ouais, en fait juste pour préciser un truc sur ce que tu as dit, en fait c'est pas on cotise qu'on travaille pour payer sa retraite plus tard. En fait, on cotise pour payer les retraites des gens qui sont à la retraite en ce moment. Donc, c'est un truc de solidarité intergénération. Et par exemple, je ne connais pas les chiffres exactement, mais par exemple, si en France, les gens qui cotisent, ça représente 2 milliards de cotisations sociales pour les caisses de solidarité, pour la caisse de solidarité destinée à la retraite. Et que, par exemple, les pensions qu'il faut verser, c'est des chiffres complètement faux. Je ne connais pas les vrais chiffres, c'est un exemple. Ça serait 1 milliard 500 millions d'euros. Et donc on va prendre les 2 milliards et on va prélever 1 milliard 500 millions d'euros dessus. Et les 500 millions qui resteraient, c'est hypothétique, ils disparaissent en fait. Ils ne reviennent pas l'année d'après. Ils ne sont pas capitalisés, quoi. Et du coup, tous les années, c'est comme ça. En fait, c'est l'exemple, il est faux dans le sens où les caisses, elles sont plutôt déficitaires pour diverses raisons actuellement, quoi. Et donc, en fait, l'enjeu de ce truc-là, c'est que c'est de l'argent qui ne travaille pas. C'est de l'argent qui n'est pas placé en bourse ou quoi. Et s'il y a un surplus, théoriquement, il n'est pas... il est détruit, quoi. Il n'est pas placé en bourse. Et donc, en fait... ça représente énormément d'argent, je pense que c'est dans les milliards d'euros, et cet argent il intéresse les banques, il intéresse les assurances pour détruire ce système et créer plutôt un système de retraite à l'américaine par exemple, par capitalisation, où chacun cotiserait pour sa propre retraite plus tard, et cet argent serait déposé à la banque, et la banque serait chargée, ou les fonds de pension seraient chargés de le faire fructifier, de le faire jouer en bourse, et donc de créer de faire des opérations financières à haut risque, comme ce qui a pu se passer en Grèce et ce qui a amené la crise de 2008, par exemple. C'était des fonds de pension qui en étaient à l'origine. Et donc voilà, on oppose deux systèmes. On voit bien que ces deux systèmes, tous les opposent et qu'il y a des grands enjeux financiers derrière. Après, cette réforme-là, pour l'expliquer plus, en fait, la disquette que nous met le gouvernement, c'est qu'ils disent on n'augmente pas tout de suite la durée de cotisation, mais on va l'augmenter d'un trimestre tous les 3 ans. Et donc, en fait, c'est repoussé à 2035 ou un truc comme ça. Mais enfin, dans les faits, voilà, ça se dessine maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir pour empêcher cette chose-là, quoi. Ils voudraient repousser à 44 années de cotisation, ça ferait, d'ici 2035, il me semble. Et donc, enfin, je sais pas. C'est, là, actuellement, on n'est plus dans le plein emploi. Tout le monde connaît des périodes de chômage. Avant la retraite, au cours de sa vie active, et chaque année où on n'aura pas cotisé, ils vont nous baisser les pensions de moins 5%. Et même les gens qui font des études ou qui commencent à travailler assez tard, ça, par exemple, si on termine ses études, je ne sais pas, à 22 ans, 22 plus 44, ça fait, tu termines de travailler, si tu veux ta retraite à taux plein, vers 68 ans, quoi.
Et 66, 68. Après, voilà, juste pour rebondir, il y a ces questions-là, mais c'est surtout voilà, la question du fait qu'il n'y a plus de plein emploi. C'est pas... Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas dire, si, même si on doit cotiser 44 ans, ce ne sera jamais 44 ans d'affilée, à part, je ne sais pas, qui arrive à avoir un CDI qui durera 44 ans aujourd'hui. On le voit bien, les boîtes, les grosses industries qui proposaient du travail à long terme pour des gens qui voulaient voir avoir un poste en CDI. Sûr, et bah toutes ces boîtes sont en train de liquider leurs salariés, les plus anciens d'abord, mais ça arrive aux plus jeunes aussi, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, moi je pense que la disquette, elle est beaucoup plus large que cette simple réforme des retraites, et c'est de ça aussi qu'on va essayer de parler dans cette émission tout au long de ce mouvement, s'il y en a un, et puis même tant que ça continuera à se passer comme ça. C'est que voilà, c'est au final, c'est tous les gens qui cotisent pour ce système solidaire intergénérationnel, comme tu l'as dit, qui en tout cas dans l'idée est comme ça, c'est eux qui se retrouvent avec le couteau sous la gorge, qui doivent non seulement travailler plus, éventuellement cotiser plus, tout ça pour des fausses raisons à chaque fois. Et voilà, les trucs, notamment les arguments principaux qu'on entend quand on avance justement, oui, il faut réformer notre système des retraites, c'est on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, c'est inéluctable, c'est fataliste, c'est notre société qui le veut, c'est comme ça, un point c'est tout, fermez vos gueules. En gros, c'est ça qui est dit. Donc voilà, peut-être qu'on va juste passer tu voulais répondre.
Ouais, juste pour dire en gros ce qui va se passer, c'est que peu de gens pourront travailler jusqu'à l'âge où tu auras ta retraite à taux plein. Et ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens vont partir avant et qu'ils auront une retraite amputée, quoi.
C'est ça.
Et donc, c'est une baisse des pensions. Ça veut dire la misère quand tu arrives à la retraite, quoi. Et enfin, voilà, c'est ça l'effet principal de cette retraite, quoi, de cette réforme, quoi. Donc on va s'écouter le reportage qu'on a fait à la manif de mardi dernier, où notamment on discute avec un travailleur de l'hhôpital Sainte-Anne, et donc voilà, qui nous expose son point de vue.
Bonjour. Bonjour, enchanté.
Ouais.
Là-bas, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah, l'ambiance là-bas, c'est une ambiance de gens fatigués par les conditions de travail, les difficultés pour bosser. Et moi, personnellement, pourquoi je suis là? Parce que dans ma vision des choses, si on fait rien, on sera écrasé. Donc petit à petit, en continuant les combats, on peut y arriver. Enfin, j'en suis persuadé. Maintenant, on est là. Aujourd'hui, c'est pour les retraites, parce que moi, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 67 piges et mourir à 68. Donc pour les enfants plus tard, pour les jeunes de maintenant, et parce qu'on passe pas, moi on n'est pas là sur Terre pour vivre, pour travailler à mon sens, ou pour passer la plupart de sa vie à le faire. Donc moi je suis là pour avec tous les autres qui sont là aujourd'hui pour montrer qu'il y a un mécontentement et qu'il faut en prendre compte. Voilà. Après bon, situation personnelle, moi je suis ouvrier. Je suis photographe dans l'hôpital, je filme des blocs opératoires. Je suis arrivé là-bas il y a 13 ans, je gagne 150 euros de plus qu'il y a 13 ans. Sauf que mon loyer, il a augmenté, mon EDF a augmenté, mes bagnoles, ça a augmenté, enfin la totale, ça ne suit pas. Alors qu'il y en a qui se gavent. Donc les Total, les MEDEF et compagnie qui font passer des lois à la con. Voilà, je me bats aussi pour ça. Après, c'est plus que du syndicalisme ou du combat solo, c'est de la politique. Mais enfin, je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Maintenant, il faut être motivé. Moi, je suis persuadé que le jour où il y aura une grève générale, comme en 82, comme en 78, comme en 95, là, le rapport de force, il y sera. Et à mon sens, il n'y a que le rapport de force qui pourra faire bouger les choses dans ce pays. Il y a d'autres pays qui ont eu un rapport de force, dans les pays arabes notamment, pas, non, il n'y a pas longtemps, et qui n'ont peut-être pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais qui ont réussi à faire bouger les choses. Pourquoi pas nous, France, pays des droits de l'homme, de la révolution? Aujourd'hui, tout ça, ça ne veut plus rien dire. La plupart des gens ont oublié et sont résignés, donc faut changer les choses. Et pour ça, il faut se battre tous les jours et tous ensemble.
Justement, ça se passe comment avec les collègues quand vous leur parlez là de la
retraite? Bah, il y en a qui comprennent, les anciens. Les plus ou moins jeunes. Moi, j'ai 34 ans. J'ai du mal à convaincre les jeunes qui pensent qu'ils vont pas en avoir. C'est sûr. Maintenant, après, il y a ceux qui sont sensibilisés et qui ont un côté où ils peuvent avoir la compréhension du dialogue syndical ou politique. Mais il y a ceux qui veulent pas en entendre parler parce que dans les médias, on leur dit les syndicalistes, c'est des feignants, les politiques, ça sert à rien, c'est tous les mêmes. Bon, c'est pas faux. Mais ouais, c'est compliqué. Là, par exemple, aujourd'hui, à Sainte-Anne, pour faire marcher l'hôpital, il y a besoin de 1500 personnes aujourd'hui. Il y en a 45 en grève. Je te laisse le pourcentage, c'est 7%, 5%. Donc, c'est pas avec ça qu'on y arrive. Après, au fil du temps, peut-être qu'on y arrivera, mais c'est compliqué. Déjà, il faut toucher les consciences des gens. Et pour ça, il faut aller les voir, il faut les convaincre, il faut discuter. C'est un travail de tous les jours et c'est une longue bataille. Mais encore une fois, si on fait rien, on est sûr qu'il n'y aura rien qui se fait.
À partir de ce week-end,
il n'y aura rien qui se fait. Pour moi, le principe de base, c'est même si ça ne marche pas, au moins on se dit on l'a fait. Et on se bat. Donc voilà. Moi, je reste motivé dans mon truc. J'ai une éducation politique, syndicale. Je suis concerné par la situation et voilà, c'est ce qui m'intéresse, d'essayer de faire comprendre aux gens et de leur expliquer les trucs.
Là, tout à l'heure, tu parlais de grève générale ou quoi. Vous militez pour ça
Moi, je suis intimement convaincu personnellement, et une partie des collègues de mon syndicat aussi, que c'est la chose qui peut faire en sorte que l'opinion publique prenne conscience qu'il n'y a que comme ça qu'on peut instaurer un rapport de force. Et pour moi, le rapport de force, ça ne veut pas dire de la violence, ça ne veut pas dire des émeutes, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire bloquer le pays pour que les gens comprennent que c'est la base du pays et les petites gens, entre guillemets, qui maîtrisent, qui produisent. Et voilà, c'est mon principe de base. Après, moi, j'en ai vu qu'une de ma petite vie. Je sais que ça a marché et je suis intimement convaincu que si on recommence, ça marchera. Maintenant, il faut convaincre les gens. Et ça, c'est compliqué.
Tu parles de 95?
Ouais. 95, décembre 95, j'étais au lycée. Il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de rien. Au bout du moment, ils ont compris, ils ont écouté. Alors, on n'a peut-être pas tout obtenu à l'époque, mais il y avait un rapport qui était là et les décideurs ont eu peur. Et donc, c'est là qu'ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse un truc. Aujourd'hui, on vous parle de la crise, de la guerre en Syrie, de machin en Libye. Ça, c'est pour pas qu'on parle d'autre chose. Donc oui, je suis convaincu que le jour où on fait grève générale, où tout le monde est dans la rue en même temps, là, on sera entendu.
Est-ce que c'est pas aussi un manque de volonté des appareils syndicaux ou quoi, des directions? Est-ce que ça
suit? Ouais, là tu touches un point sensible, c'est sûr. Tout à l'heure je te disais, moi je suis AFO, la possibilité qu'on a, moi dans ma section syndicale, dans mon hôpital, c'est que on fait ce qu'on veut et nous laisse tranquille. Mais effectivement, ça reste aussi les hautes sphères syndicales et les maisons mères, comme je les appelle. Elles ont des pouvoirs de décision, elles ont des pouvoirs d'action et elles font pas nécessairement toujours le travail qu'on souhaiterait, nous, les militants de base, qui sommes au terrain, qui sommes au chevet du travail. Ouais, t'as raison. Maintenant, il faut aussi que les gens se réapproprient le droit de grève. Aujourd'hui, les sections syndicales font tout, effectivement, pour serrer et pour organiser et donc pour driver les journées de grève. Ça Enfin, il faudrait changer ça, mais ça, moi, je sais pas comment faire aujourd'hui. Je m'occupe déjà de l'hôpital, je viens aux manifs, je vois des collègues, des amis, je rencontre des gens et j'essaye de convaincre petit à petit. Si les syndicats ont été fondés, les sections syndicales, les grandes sections ont été fondées, la CGT, FO, la CFDT, tout ça, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est pour maîtriser le peuple, entre guillemets, ou le, voilà, le canaliser, on va dire. Pas le maîtriser, c'est peut-être un mot fort. Mais voilà. Oui, je reste persuadé que si demain on laisse la liberté aux gens de s'organiser comme ils veulent, ça marchera. Faut être motivé.
Voilà, on est de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19-20h30. On vient d'écouter donc l'interview d'un camarade, d'un mec qui travaille donc à l'hôpital Sainte-Anne, hein, pas. Enfin, il est photographe dans le bloc opératoire. Donc voilà, c'était quand même intéressant ce qu'il disait. Voilà, ça a été pris à la manifestation du 10 décembre dernier. C'était un peu intéressant parce que quand même ça il développe quand même pas mal de choses qui vont se passer et surtout le fait de vouloir construire un réel rapport de force. Voilà, c'est toujours bon à entendre et c'est toujours intéressant quand des gens qui luttent se posent sur ces positions-là. Nous, ce qu'on voulait aussi dire et rebondir un peu sur cette réforme, c'était le côté un peu extra national que ça implique et que ça découle quand même de toutes ces politiques d'austérité qui sont imposées depuis quelques années, depuis que c'est la crise, et que du coup, ça vise à vraiment couper tout un tas de dépenses ou de trucs, d'espèces d'argent public ou de caisses de solidarité comme est notre système des retraites. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui vient aussi un peu au-delà de notre simple pays. C'est quelque chose qui est appliqué concrètement à tout un tas de gens dans toute l'Europe, même ailleurs, et que c'est une direction en tout cas que prennent les décideurs qui fait un peu plus flipper, même si la majorité des décisions font flipper.
Je sais pas comment dire, mais pour reprendre ce que disait Yano, que c'est des choses qui sont décidées au Parlement, à Bruxelles là, qui préconisent une diminution, une augmentation de la durée de cotisation au niveau européen, donc que tous les pays doivent augmenter la durée de cotisation pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Donc ça, c'est des ordres qui viennent d'en haut, qui sont décidés au niveau européen, quoi. C'est bien appliqué par notre gouvernement actuel. Et puis, moi, je me souviens des grèves en 2010 contre la réforme des retraites mise en place par le gouvernement Sarkozy, et où il y a des gens, il y avait le PS dans les manifestations, ils étaient tolérés dans les manifestations, personne leur disait de, enfin si, il y avait des gens qui leur disaient de partir, mais souvent ils défilaient avec les gens et leur discours c'était votez pour nous en 2012 et on fera une loi pour revenir sur la réforme des retraites, on reviendra à 60 ans de cotisation, la retraite à 60 ans, pour tous, quoi. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit c'est la perspective de, on va voter pour eux en 2012 et ça résoudra tous nos problèmes, alors que aujourd'hui on voit qu'il n'y a aucune différence et qu'ils font les mêmes réformes, et franchement on voit pas de différence entre ces deux gouvernements, quoi, et ils défendent tous les intérêts du patronat ou des banques ou des grands groupes financiers, et que peut-être la solution ce serait plutôt qu'elle est plus entre nos mains et que c'est ce qu'on fera à la base qui fera vraiment. Enfin, si le rapport de force est assez puissant, c'est là qu'on empêchera ces choses-là et qu'on défendra les acquis sociaux, comme on dit. Je sais pas comment dire.
Après, moi, c'est clair que je voulais rebondir quand même sur une chose. Ce qui est sûr, c'est que là, on arrive à un degré, que ce soit la gauche ou la droite, de remise en cause de tout un tas de luttes qui font que, sans parler d'acquis sociaux, là, on retourne vraiment à des rapports entre travailleurs et patrons d'il y a un siècle, d'il y a deux siècles. C'est même pas... C'est-à-dire que là, on est vraiment... Et là, je vais élargir à pas seulement cette réforme des retraites, que ce soit au niveau des accords de compétitivité. Et on va en parler juste après, parce qu'on va parler de ce qui se passe dans la boîte... PSA Peugeot Citroën, où il y a certains accords qui ont été signés que dans cette boîte, mais il y en a aussi avec l'ANI qui ont été votés au niveau national entre délégués du MEDEF et délégués des partenaires sociaux. On est vraiment pour ceux qui vont aller au charbon, qui vont aller bosser, on se retrouve avec des salaires de misère pour une majorité des gens, avec la diminution, voire les coupes de tout ce qui est pension de retraite, pension d'invalidité, pension de chômage. Tout ça, c'est en train de d'être remis en cause petit à petit. Et grosso modo, ceux qui vont aller au charbon là et qui travaillent et qui y sont, ils vont concrètement s'en manger plein la gueule. Et on est en train tous de s'en manger plein la gueule. Donc c'est clair que c'est pas évident. Il y a Mouloud entre-temps qui est arrivé quand même sur le plateau. Voilà, je voyais qu'il y a avait un petit problème d'écoute. Nous, on voulait quand même dire aussi que il y avait des choses qui peuvent se passer contre toutes ces choses-là. Il y a eu un mouvement en 2010 où il y a quand même pas mal de pratiques de lutte qui ont été avancées, qui sont vachement intéressantes dans la façon de se dire de lutter, c'est-à-dire de s'organiser concrètement pour faire face à ça. Notamment, on parlait comme ça des caisses de grève, que ça avait pas mal existé, notamment on s'en souvient à Austerlitz, chez les cheminots, dans certaines boîtes, dans pas mal d'endroits où des gens concrètement, au-delà de la grève, parce que c'est quelque chose à mettre en place pour déterminer un rapport de force, qu'il y avait aussi des pratiques qui étaient intéressantes. Donc faire en sorte que la lutte, la grève nous appartiennent, et comme le dit dans ce reportage, ne soit pas récupérée par des directions syndicales qui temporisent, qui canalisent la plupart des gens, c'est intéressant à mettre en place. Voilà, nous, c'est aussi ce qu'on peut souhaiter.
Ouais, puis on se souvient qu'il y avait eu... de toute façon, s'il y aura une grève générale, elle partira de la base, elle partira des entreprises. Localement, les gens se mettent en grève et ensuite, ça fait boule de neige et c'est tout le pays qui se retrouve bloqué. C'est ça qu'on a vu en 95, notamment. Et oui, il y avait différents moyens d'action qu'on a vu en 2010 aussi, notamment les blocages où les gens se regroupaient. Parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de bloquer un axe stratégique de la production française. Et donc les gens se regroupaient pour bloquer des axes routiers, pour bloquer des ports même, pour bloquer des différentes zones industrielles, des choses comme ça. Et donc c'est bien de rappeler que ces moyens d'action-là existent, quoi. On espère qu'il y aura des suites à cette grève qui a eu lieu le mardi 10. Pour l'instant, on n'a rien entendu venant notamment de la CGT. C'est grave aussi face à une situation comme ça de laisser les gens dans l'attente et de pas suivre sa base, quoi. Et en tout cas, on vous tiendra au courant, on essaiera de développer un peu plus une analyse sur cette réforme. Et
on essaiera aussi
s'écouter un peu de musique là.
On essaiera aussi d'inviter, peut-être de continuer de suivre ça et d'inviter des gens qui sont directement concernés aussi par cette réforme là et puis d'un point de vue général comme on essaye de le faire depuis ce début, d'élargir aussi à ce qu'on nous fout sous la gueule, à ce couteau sous la gorge qu'on nous met. Donc on va passer peut-être une petite pause musicale pour faire un break. On va revenir tout de suite après au fond près du radiateur avec Mouloud qui nous a rejoint. Donc ça va dépoter là, faites attention.
Yeah. Aquí explota. Suena, bro. Rap.
tierra para que tomen, para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Y significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y
rebelarse contra el poder.
Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me que trefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, sí. Pero soy humano con defecto para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, güey, y vacilón, simplemente porque de carrete y hablo reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular. Y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman. Tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma. Porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición. Y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya. No hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo. Si los perros chillan significa que les pica y punto. Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbos. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución.
Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin este.
Voilà, vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19-20h30 sur FPP 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. On vient de s'écouter un morceau qui s'appelle Escribo Rap con R de Revolución, et par contre on ne connaît pas l'interprète de ce morceau, donc on lui présente toutes nos excuses, voilà. Et puis bah nous, on continue cette émission. On était un peu en train de parler de la réforme des retraites, de s'en mêler, hein, parce que voilà, comme vous l'avez compris, on est un peu en équipe réduite dans cette émission, donc faut qu'on reprenne nos bonnes vieilles habitudes. Et puis on continuera forcément de vous en parler. Et puis d'ailleurs, on va enchaîner sur un sujet qui touche un peu à ce point-là. Quand on élargit, on voit vraiment que tout est en train de s'écrouler, et puis qu'il faut vraiment lutter maintenant, toujours et jamais se laisser faire. Là, on va parler notamment des accords de compétitivité et du mouvement de lutte qu'il y a dans beaucoup de sites du groupe PSA Peugeot Citroën. Donc, je vous rappelle quand même déjà plusieurs choses. D'abord, une chose qu'il y a quand même, en 2010, il y avait eu un long mouvement contre la réforme des retraites où vous pouvez retrouver tout tout un tas de sons qu'on avait pris autour de ces luttes, que ce soit chez les cheminots, chez les pétroliers à Grandpuy, les gens qui, enfin bref, plein de gens chez les lycéens, chez plein de gens qui ont participé à ce mouvement de lutte. Vous pouvez retrouver tout ce son qui a été pris donc par notre émission, par plein d'autres gens. C'est sur le site FPP, www.rfpp.net, et sur notre site au fond près du radiateur.fr. Juste dire que voilà, il y a quand même eu pas mal de choses et que ça sera comme un air de déjà vu hein, si vous entendez ces sons.
Ouais, non, c'est juste pour dire ce que tu as dit, en fait, que vous pouvez le trouver sur notre site. Et en fait, pour préciser, c'est la rubrique, il y a une rubrique en haut là, c'est lutte des travailleurs, et vous pouvez retrouver tous les sons comme ça. C'est plus facile parce que, enfin voilà, pour les retrouver, c'est comme ça.
Yes. Voilà, donc c'était un petit point technique, voilà, pour dire que bah on vit pas dans n'importe quel monde, et puis qu'il y a déjà eu un mouvement contre la réforme des retraites il y a 2 ans, et que voilà, là on est encore en plein dedans. Et puis voilà, pour vous dire aussi qu'on a énormément parlé de la lutte qui s'est déroulée donc sur le site PSA à Aulnay cette fois-ci, donc en banlieue parisienne. Il y a eu 4 mois de grève, on vous le rappelle quand même, hein, de janvier à mai dernier, janvier 2013, et qu'il y a tout un tas de sons aussi qu'on a pris, mais qui sont aussi disponibles sur ces mêmes sites internet et sur un autre site, sonsenlutte.net, donc pour vous remémorer un peu tout ce qui s'est passé, hein, qui était condition quand même de centaines de milliers d'ouvriers qui luttent, qui se mettent en grève illimitée contre la fermeture de leur usine, donc à Aulnay. Donc on va refaire un petit point quand même sur la situation d'Aulnay aujourd'hui, et puis évidemment sur ces accords de compétitivité qu'on a appelé l'ANI. Donc je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est pas très grave. C'est l'accord de compétitivité, ça parle de soi-même, c'est-à-dire comment les patrons arrivent à faire en sorte que leurs ouvriers soient plus compétitifs pour gagner plus d'argent et voilà, pour rester dans un ordre de compétitivité vis-à-vis des autres pays, des autres entreprises de manière internationale. Voilà, c'est un peu leur petit business. Comment ils arrivent à saquer tous les gens qui bossent pour eux? C'est un peu de ça dont il est question. Il y a eu des accords signés nationalement. Aujourd'hui, dans le groupe de PSA, début septembre, il y a eu voilà, concrètement des accords internes à cette entreprise qui dénotent quand même très violemment de ce qui va se passer pour tout le reste des gens du pays, parce que c'est ça dont il est question. Ce qui est signé plus ou moins chez PSA, et on a souvent dit aussi à quel degré l'industrie de l'automobile et les luttes qui sont liées sont quand même révélatrices de tout un tas de choses qui peuvent se passer dans notre société. Là, c'est encore une fois le cas. On est en train clairement de couper l'eau à tout un tas de gens. En tout cas, dans le groupe de PSA, ça se ressent, et il y a un mouvement qui s'est enclenché directement dans pratiquement tous les sites de ce groupe. Juste d'abord faire un petit point sur Aulnay quand même, dire que Aulnay, c'est quand même une situation un peu différente, puisque le site est en train de fermer. Il y a eu entre guillemets une victoire du patronat, on en a parlé déjà à la fin de la saison dernière, puisqu'elle a réussi à fermer cette usine concrètement, et que aujourd'hui beaucoup de gens n'y sont plus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont encore 1400 sur le site de PSA Aulnay. Après, on rappelle quand même qu'il y a beaucoup de gens, et la grève notamment a obtenu le fait que ces licenciements aient un peu plus de valeur, qu'il y ait un peu plus de thunes mis sur la table, un peu plus de respect, un peu plus de dignité, ça c'est évident. Maintenant, le site est concrètement en train de fermer. PSA avait annoncé sa fermeture en 2014. Aujourd'hui, il n'y a plus de production dans l'usine, il n'y a plus une seule voiture qui est produite dans cette usine. Simplement, les gens qui restent, les 1400 qui bossent encore sur le site, c'est pour faire du nettoyage, de la formation, de la logistique, et il y a des briefings tous les matins, toutes les après-midi. Il n'y a plus 2 équipes comme ça l'était l'année dernière. Enfin, à partir de 14h, plus personne ne bosse. Bref, le site concrètement va fermer en octobre, hein, selon des sources. En octobre, il ne se passera plus rien. Donc voilà, on voit aussi à quel point voilà, tout ce qui est dit par les patrons, les genres de promesses, tout ça qui fait oui, mais vous inquiétez pas, le site va fermer en telle année, il n'y aura pas de souci. Hein, on voit comment ils n'ont aucun mal à revenir là-dessus. Donc ça, c'est vraiment propre au site de Aulnay. Après, on va voir aussi qu'il y en a qui se bougent encore là-bas. Et maintenant, voilà, il y a eu ces accords de compétitivité au travers de réunions entre les partenaires sociaux et la direction, donc début septembre. Et donc là, on a tout un tas de points sur lesquels Les ouvriers qui bossent pour PSA vont devoir énormément se serrer la ceinture. Pourquoi ? Pour que leur boîte, soi-disant, soit plus compétitive, qu'elle gagne plus de fric. On avait fait un point déjà à quel degré Citroën, la famille Citroën, s'en était mis plein les poches.
Ouais, en gros, là, ils veulent économiser 100 millions d'euros sur le dos des salariés. Ça représente à peu près 1000 euros par salarié par an pendant 3 ans, quoi. Donc voilà. C'est un truc vraiment énorme, quoi.
Exactement. Donc, on a un peu listé, voilà, on a un peu listé tous ces points qui sont dans ces accords de compétitivité. Peut-être qu'on en oublie, peut-être qu'il y a certains qu'on développe pas tellement, mais on va vous en faire part.
Mais je voulais dire un point. D'abord, bonjour à tout le monde, parce que je suis venu super en retard, voilà. Donc, je suis très content de revenir, voilà. Et je voudrais revenir sur la question de l'idée de l'accord de compétitivité. C'est, en fin de compte, d'expliquer que le salaire, que les travailleurs coûtent très cher à l'entreprise et qu'il va falloir bloquer les salaires et faire plus de thunes, tout simplement sur le dos des salariés. C'est vraiment le principe, si on a des notions un peu, entre guillemets, marxistes sur le capital, c'est bien ça, c'est de faire encore plus de plus-value, en fin de compte, sur le dos des salariés. Alors, c'est une augmentation du nombre d'heures de travail payées au même tarif qu'auparavant, tout simplement. On fait plus d'heures, sauf qu'on travaille 35 heures. On peut travailler le week-end et on accélère aussi les cadences. Donc, c'est deux choses. C'est augmentation du temps de travail et accélération de la production. C'est ça l'idée. Et face, évidemment, Peugeot est en concurrence avec l'ensemble des groupes automobiles, eh bien, dans ce cadre-là, eh bien, on va accélérer ça. Et clairement, c'est ça, c'est compétitivité, c'est sur la base des salariés. Alors, comme s'ils ne faisaient pas assez d'argent. Effectivement, voilà, eux, le point central des patrons, c'est de dire les salariés nous coûtent trop cher, donc on va encore, comme le citron, presser. C'est ça le principe, et ça précarise effectivement les salariés. Et voilà, c'est la roue sans fin, mais c'est une accélération, puisque ça, enfin, on l'a vu à Renault, on le voit dans d'autres secteurs d'activité, même y compris dans l'aide aux devoirs, l'aide à la personne, où les gens, en fin de compte, font 10 heures par jour, et ils vont devoir récupérer, soi-disant, des heures de travail sans être payés. Donc, on fait des heures supplémentaires, et dans un mois, peut-être, on va essayer, par un jour de congé, récupérer toutes les sommes de travail qu'on a fait. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, avec l'accord aussi des syndicats, parce qu'il faut savoir qu'il y a des signatures de syndicats. Voilà, et c'est aussi l'aspect, c'est qu'il y a on précarise, on met au chômage les gens et on fait que les gens ont de moins en moins de possibilités de se défendre, parce que ça sous-entend aussi ça. Moins en moins de pouvoir dire non, d'arrêter cette machine. C'est qu'on est dans une machine sans fin et on le voit bien à un moment donné, quand ils décident que de manière, ils veulent licencier les gens, ils vous disent au revoir. C'est l'accélération de ça.
Ouais, juste pour rappeler que c'est pas les salariés qui coûtent cher, c'est quand nous on travaille, qu'on rapporte de l'argent au patron, quoi. Mmh. C'est le travail qui crée de la valeur. Absolument. Et c'est inverser complètement la réalité, voilà, que de dire que le travail coûte cher. Le travail coûte pas cher, le travail rapporte de l'argent au patron, quoi. C'est comme ça que les patrons font leur capital qui leur permet d'investir.
Ce que je voulais essayer de développer, c'est vraiment la logique de l'entreprise, de ces gens-là. C'est qu'ils disent, premier point, ça coûte de l'argent d'avoir des salariés. Alors qu'en réalité, on le sait très bien, c'est parce que les salariés produisent des choses qu'ils vont pouvoir faire des bénéfices. C'est vraiment le truc de béaba, et surtout l'industrie, c'est vraiment ça. Ce qui fait que les patrons gagnent de l'argent, c'est qu'ils vont pouvoir produire un maximum, en fin de compte, de pièces, de voitures, en très peu de temps. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont pouvoir faire la plus-value, les bénéfices, etc. Donc c'est vraiment quand les salariés disent « cette entreprise, ça m'appartient, c'est sur mon dos qu'on fait du fric », eh bien, économiquement, socialement, c'est bien de ça. Et les salariés savent très bien de quoi on parle quand on parle d'exploitation. Voilà.
Voilà, donc on va rebondir quand même peut-être sur justement ce qui a été signé à PSA dans ce groupe, parce que quand même, voilà, c'est vraiment, ça colle à exactement tout ce qui vient d'être dit ici. Donc, un peu quelques points. Donc, il y a des heures supplémentaires qui seront effectuées, qui seront payées que si le solde est négatif et que si le solde est positif. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on a pu lire, qui, comme ça donné, ne veut pas dire grand-chose, mais on se rend compte que à quel degré les patrons vont dire le solde est positif, on vous paye vos heures supplémentaires, c'est quelque chose quand même qu'on peut se poser, donc c'est quelque chose de bien fourbe. Il y a des mobilités forcées qui ont été signées dans ces accords, c'est-à-dire qu'on oblige des ouvriers tel site à se rendre sur l'autre site pour bosser qui est à 300 km de chez eux, de leur domicile, sans augmentation de salaire, sans prime, sans rien du tout, en disant non mais c'est normal, il faut être compétitif, donc il faut que tu puisses te déplacer sur l'autre site pour qu'on garde les mêmes cadences, hein. C'est un peu ce dont Mouloud parlait, hein. Les mobilités forcées, c'est concrètement une augmentation des cadences. On parle aussi de baisse des indemnisations de la PLD, donc du chômage. Quand on est en chômage technique dans une boîte telle que PSA, on est payé un tant de pourcentage. Là, ce pourcentage diminue encore, et le chômage technique, il est évidemment provoqué par l'entreprise. Donc là, on aura encore moins de sous à la fin du mois. On parle de gel des salaires sur 3 ans, ce qui veut quand même dire beaucoup de choses. Aucune perspective, pas un centime de plus sur ta feuille de paye pendant 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout un tas de gens chez qui le loyer augmente, l'électricité augmente, les charges augmentent, tout augmente. Donc là, on a encore quelque chose de violent. On parle aussi de suppression de la prime d'ancienneté chez PSA, puisque au-delà de 15 ans, normalement, il y a une prime qui est obligée d'être versée, qui là carrément est supprimée. On parle là concrètement à la rentrée d'une diminution, voire d'une suppression, ça dépend les sites, ça dépend certaines conditions, mais une suppression concrète de toutes les primes de rentrée. Quand on sait qu'il y en a qui ont des gosses, qui ont des charges en plus à ces moments-là, c'est difficile aussi. Peut-être qu'il y a encore quelques points que j'ai zappés qu'on peut évoquer.
Ouais, par exemple, il y a, je ne sais plus si tu en as parlé, mais il y a mobilité forcée. Ouais. Par exemple, entre les entreprises de la région parisienne, Poissy, Aulnay, Saint-Ouen, les gens peuvent être amenés d'une semaine à l'autre à aller travailler sur un site puis dans l'autre, sur le bon vouloir du patron, quoi. Et aussi il y a ce qu'ils appellent l'overtime, c'est l'augmentation de la flexibilité. En gros, ça veut dire que tu arrives le matin et peut-être le soir, en fait, tu vas rester une heure de plus au travail et tu le sauras dans la journée, quoi. Et c'est ça qu'on veut imposer. Et il n'y a pas que à Aulnay, par exemple, le 17 juillet, dans une entreprise qui s'appelle Française de Mécanique, ils ont imposé le même genre d'accord. Enfin, Aulnay, c'est un exemple. La Française de Mécanique, c'est un exemple. Pareil, c'était overtime de 30 à 60 minutes par jour. Les samedis travailler gratuit, la perte de la prime de repas, suppression d'une prime de 21 €, gel des salaires 2013, 2014, 2015, donc c'est un mouvement général, quoi. Mouloud, tu voulais dire un truc?
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand Yano amoncelle toutes ces mesures, il faut quand même savoir que si vous, dans un salaire d'un quelqu'un qui travaille en usine automobile, l'ancienneté, les primes de rentrée, sur l'année, ça correspond, c'est-à-dire si on regarde le salaire dans l'année, ça correspond à un minimum, s'ils appliquent ça, ici c'est appliqué, à une baisse sur l'année de 30% du pouvoir d'achat, ce qu'on appelle du salaire de la personne. C'est-à-dire que si un salarié de base n'a pas l'ancienneté et n'a pas les primes de rentrée, son salaire, il est très, très bas. Il est au SMIC, quoi. Parce que tous ces salariés travaillent au SMIC. 10 ans ou 15 ans plus tard, il y a peu ou pas d'augmentation de salaire. Donc, ça veut dire que quand tu rentres, t'as 500 € en plus, eh bien là, ce 500 €, il est éliminé. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que c'est une baisse. C'est pas considérable. C'est on sacrifie la moitié de son salaire et est cassé. Ça, c'est un premier truc. C'est énorme. Deuxième chose, il y a au niveau des conditions de travail, c'est même plus de la flexibilité. Ça fait vraiment penser à revenir, l'exemple typique, c'est les Pizza Hut. Vous savez, les gamins avec la mobilette. C'est-à-dire qu'on s'en fout, tu travailles 10 heures, tu as un accident de travail, tu t'en fous. L'expérience du mouvement ouvrier, et notamment dans le milieu industriel, c'était que c'est un siècle de lutte, d'organisations qui ont permis à avoir des trucs de base de protection. Là, si tous les points sont appliqués, C'est comme s'il n'y avait pas eu un siècle de lutte de mouvement ouvrier dans les usines, etc. Le point aussi central de la force de ces travailleurs, qu'on y travaille en industrie, et je pense que ça, il faut avoir ça en tête toujours, c'est qu'ils sont sur un même lieu de travail, nombreux, et c'est aussi ça qui fait la force. Quand vous avez une usine de 3000 personnes, on peut, parce qu'on est nombreux, parce qu'on est dans un lieu de production importante, arrêter la chaîne et permettre d'avoir des revendications. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression que tout ça n'existe plus et qu'on revient, mais carrément, au 19e siècle. Et ça, ce n'est pas juste des mots d'adjectifs. C'est vraiment... c'est quand on coupe 30 à 40% du salaire d'un jour au lendemain de quelqu'un, si c'est appliqué... Eh bien, c'est les méthodes de la Grèce, quoi. C'est les gens, d'un seul coup, sont licenciés, des millions de gens, dehors, out, comme s'ils n'avaient plus de pouvoir, plus de possibilités, plus de syndicats, etc. Et les syndicats qui signent ça, c'est énorme. C'est intéressant que c'est sous la gauche aussi. C'est intéressant aussi de le voir. C'est qui accompagne ça? C'est la gauche.
Ouais, puis qui c'est qui avait supprimé l'indexation des salaires sur les prix aussi, c'était sous Mitterrand.
Absolument. Ouais.
C'est que les salaires augmentaient en fonction de l'augmentation des prix, ça a disparu dans les années 80.
En tout cas, c'est clair que dans l'industrie automobile, énormément des casques ont été faits sur le dos des salariés, ça a été fait sous la gauche, on l'a vu aussi dans les années 80 quand il y a eu justement les anciennes grèves sur le site d'Aulnay. Moi je voulais revenir quand même, après qu'on ait un peu détaillé justement ces accords de compétitivité qui ont été signés donc en interne, en tout cas qui sont plus ou moins toujours en négociation entre guillemets en interne dans la boîte PSA, puisque voilà, il y a eu des réunions début septembre, visiblement il devait y avoir d'autres réunions fin octobre, novembre, tout ça. Il y a des travailleurs qui commencent à se bouger, donc la direction a avancé les réunions. Là, il y a une journée clé visiblement dans le groupe, c'est le 18 octobre où les réunions vont se poursuivre.
Ouais, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu cette annonce là début septembre, comme tu disais, et que les salariés ont commencé à se mettre en grève dans plusieurs usines voilà. Du site PSA. Ça a commencé par Mulhouse. Ça a commencé par le 10 septembre où c'était la journée dont on a déjà parlé, de la grève contre la réforme des retraites. Il y a eu 1300 salariés sur l'ensemble du groupe PSA qui se sont mis en grève. Ensuite, le lendemain, à PSA Mulhouse, il y a 900 salariés qui sont mis en grève. Il y a plusieurs dizaines de personnes, Yano, tu compléteras aussi, qui sont mis en grève à Poissy. À Sochaux, il y avait le directeur du site qui avait organisé des grands meetings qui ont réuni plus de 7000 ouvriers pour vanter les nouveaux accords ou l'anniversaire du site, je ne sais plus bien ce que c'était. Il s'est fait huer par tout le monde et il a dû arrêter son meeting. Et donc sur la fin de la semaine dernière, il y a eu dans plein d'usines, il y a eu des débrayages. Je ne sais pas si tu avais les autres chiffres, Yano.
Non, mais peut-être que on a un peu pas vraiment tous les chiffres. Et puis en plus, ça bouge vraiment. Ce qu'il faut dire, voilà, c'est que tout au long de la semaine, il y a eu énormément de débrayages. Il y a eu plusieurs sites qui ont été bloqués, donc comme à Vesoul, où il y a une journée où le site était complètement à l'arrêt. Où ces accords, ça concerne énormément de monde. Il y a eu une réaction quand même comme ça, comme du tac au tac, de centaines voire de milliers de salariés qui ont essayé d'arrêter de travailler pour bloquer concrètement l'entreprise, ou au moins de convaincre les camarades, les collègues de le faire avec eux, donc ce qu'on appelle des débrayages, tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il y a un mouvement dans cette boîte qui va aller contre ces accords-là, que certains syndicats, comme tu l'as précisé, parce qu'il faut le dire aussi, parce que c'est avec les partenaires sociaux, entre guillemets, qu'on signe ce genre d'accord, donc sous couvert de démocratie et de tout ça, et bon, on sait aussi qui c'est, ces partenaires sociaux, ces directions syndicales qui canalisent et qui des fois même se mettent en œuvre l'arrêt d'une lutte, l'arrêt d'une grève, on en a déjà énormément parlé dans cette émission. Ce qui est sûr, c'est que ça va bouger dans ce site. Moi, sur un point, je voulais quand même... Dans ce groupe, ça a bougé énormément. Le 18 octobre, il y a un appel à la grève totale dans toutes les dans tous les sites de du groupe PSA, donc contre justement les accords qui devront être signés. Moi, je voulais juste rebondir quand même sur la lutte qui a eu à Aulnay, qui a été propre à Aulnay pendant 4 mois l'année dernière, où évidemment quand on parle de la fermeture d'un site, puisque c'était ça dont il était question, c'était la grève contre la fermeture du site, contre la fermeture de l'usine, on parle aussi de tout un tas de choix qui sont faits, d'une philosophie, de comment on essaie de lutter contre les patrons qui nous imposent leur bon vouloir. Et c'est clair que cette grève, elle a été posée à un moment clé par les gens d'Aulnay. Et moi, j'ai l'impression que le moment où ils ont lutté, il y a beaucoup de gens qui... à part par la solidarité financière, mais en tout cas dans le groupe, ça a très peu démarré, quoi. Il y a eu quelques tentatives, mais dans ce même groupe où aujourd'hui on entend des gens réagir au quart de tour, il n'y a pas eu la solidarité, on va dire, escomptée. Après, c'est moi qui le dis, c'est peut-être pas forcément le point de vue d'énormément de gens, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut en noter de l'extérieur. Et le truc, c'est que voilà, là, sans être contre-productif, aujourd'hui, c'est bien et c'est important qu'il y ait énormément de gens qui bougent, mais quand on sait que le patronat a réussi à vaincre, entre guillemets, à piétiner les ouvriers d'Aulnay qui ont lutté, on peut se demander comment ça va se passer pour tous ces gens qui vont lutter dans leur site, à Poissy, à Mulhouse et tout ça. Et c'était aussi la revendication et une des choses que disaient les gens d'Aulnay, c'est les gars, il faut s'y mettre maintenant. Quand on était en janvier, en mai 2013, qu'on était à 4 mois de grève illimitée, que le site d'Aulnay était bloqué complètement, qu'il y avait une perte effective de tant de milliers, de centaines de milliers d'euros de la boîte par jour, qu'ils étaient un peu obligés d'écouter les salariés. C'était un moment clé dans le sens où, où ce qui allait se passer par la suite dépendrait de la victoire ou non, ou des choses qui seraient gagnées dans cette grève. Aujourd'hui, il n'est pas question d'être fataliste, d'être déprimé ou quoi que ce soit. Il faut lutter, évidemment. Maintenant, on a l'impression aussi que ce d'Aulnay était à part, était dans une autre vision, alors que lutter contre la fermeture de l'usine, c'est aussi lutter contre tous ces accords qui sont signés après, contre tout ce que peut infliger les patrons, comme les patrons de Citroën, comme tout un tas de patrons, à des gens qui bossent et qui bossent de leurs mains, de leur sueur tous les jours, quoi.
Et voilà, quoi, la direction de PSA, ils ont vu qu'ils avaient réussi à fermer, c'est presque fait, à fermer l'usine la plus combative. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se permettent aujourd'hui de faire cet accord-là et ils voient jusqu'où ils peuvent aller. Ça s'appelle la lutte des classes, quoi. S'ils voient qu'ils ont gagné cette étape-là de presque fermer Aulnay, et ben ils continuent. Et là, si on les empêche pas, ils vont aller encore plus loin la prochaine fois. Voilà.
Yes. Donc en tout cas, on va juste dire, Mouloud, avant de peut-être de conclure sur ce sujet, que il y a une journée importante le 18 octobre où il faudra suivre. Il faut juste aussi revenir sur l'histoire d'Aulnay, savoir que quand même il y avait un combat aussi juridique qui était mené contre la direction. On sait, là, on a entendu aussi récemment que sur Continental, il y avait une décision de justice concernant les ouvriers de Continental qui étaient rentrés en lutte contre la fermeture de leur site en 2007, qui a été une décision de justice entre guillemets victorieuse pour les grévistes, même si l'usine n'existe plus, qu'il y a toujours une partie des grévistes de Continental qui pointent toujours au Pôle emploi à l'heure actuelle. En tout cas, il y a eu un chèque qui est tombé visiblement. On n'en sait pas beaucoup plus, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais il y a une décision de justice qui va devoir être rendue, un peu sur le même type que celle des Continental, qui va devoir être rendue ce lundi. Donc ça sera au TGI de Paris, je crois à 13h30, il me semble.
C'est le syndicat Sud qui avait assigné la direction de PSA en justice pour remettre en cause le plan social. Et qui n'était pas que sur l'usine d'Aulnay, hein, c'était 11 300 suppressions de postes l'année dernière aussi, quoi. Le jugement a lieu en juin et le verdict va avoir lieu là lundi. Et du coup, il y a un rassemblement au tribunal de Paris Métro Cité à 13h.
Yes. Et puis, nous, on continuera de façon de parler de tout ça, de ce qui se passe à Aulnay. Parce que il va encore se passer beaucoup de choses à Aulnay et d'ailleurs dans tout le groupe PSA. On espère en tout cas que les gens seront le plus combatifs possible et puis que ils n'hésitent pas, comme l'année dernière, à tenter avec cette émission de radio de donner un autre son de cloche en tout cas et de lutter comme on peut, quoi.
Mais je crois que c'est ça aussi l'idée de pourquoi on réintroduit ça. C'est l'idée que ce qu'on avait tenté de faire, qui a fonctionné, c'est que notre émission avec nos petits micros puisse être un relais, en fin de compte, des soucis des gens qui sont dans l'usine, qui décrivent effectivement leurs conditions de travail, mais aussi qui considèrent qu'effectivement ça peut être un relais de lutte. Et avec les gens qui sont aujourd'hui dos au mur, parce que c'est ça qui est vraiment en flagrant délit, c'est dos au mur, c'est-à-dire que s'ils acceptent ça, voilà, demain ils seront licenciés, c'est-à-dire des salariés jetables. Eh bien, c'est ça notre travail, en fin de compte, pour toute cette année, c'est de faire cette chronique de lutte sociale et lutte ouvrière avec aussi les gens qui sont concernés.
Donc voilà, si vous voulez nous envoyer des informations, n'hésitez pas, on a un mail, c'est au fond, près du radiateur, tout en minuscule, tout attaché, @no-, donc c'est le tiré du milieu là, no-log.org. Donc si vous voulez nous envoyer des informations ou des critiques même, n'hésitez pas, on se fera, enfin voilà, on est là pour les relayer quoi.
Et ben nous, on s'écoute tout de suite une petite pause musicale et on revient juste après ça pour finir cette émission au fond près du radiateur. Retour dans l'émission au fond près du radiateur comme tous les mardis soirs 19h-20h30 et puis on est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30. Là on vient de s'écouter un son de Betty Lavette, de Betty Lavette, c'est My Train's Coming, un petit morceau de soul à l'ancienne. On avait prévu, finalement on pensait que à 2 à 3 dans cette émission en effectif réduit on aurait du mal à tenir 1h30. On se rend compte qu'on est un peu bouqué là, qu'on arrive dans le speed sur la fin, qu'il y a des sujets qu'on va devoir raccourcir. Peut-être dire un mot quand même sur Saint-Denis, parce qu'on voulait quand même parler de ce qui s'était passé cet été à Saint-Denis pendant que tout le monde était en vacances ou pas. On va essayer d'en parler rapidement.
Quand on se promène à Paris, de temps en temps, on tombe sur des affiches du PC parce qu'ils continuent de temps en temps à faire de l'activité militante, à coller des affiches sur les murs avec marqué « Le logement ne doit pas être un luxe, nous en ferons un droit, non à la spéculation immobilière, Paris n'est pas à vendre », des choses comme ça. Après, quand on habite à Saint-Denis et que la mairie, c'est le parti communiste, en fait, c'est assez choquant ces affiches-là parce qu'on se voit qu'ils font... qui font complètement l'inverse de ce qui est affiché sur les murs de Paris, quoi. En fait, à Saint-Denis, il y a un plan de rénovation du centre-ville, comme il peut y avoir dans une quarantaine d'autres villes en France. C'est, on prend le prétexte de l'habitat insalubre pour détruire les bâtiments ou les rénover, et pour construire des immeubles ou rénover les anciens immeubles, mais pour ensuite mettre en location ou à la vente des appartements beaucoup plus chers, donc qui ne sont pas destinés aux personnes qui habitaient là avant, qui vivaient dans des conditions d'insalubrité. Et souvent, ces gens-là, on les expulse, on les met à la rue, et des fois, ils sont relogés. Très rarement, ils sont relogés sur place. Des fois, ils sont relogés dans un autre quartier de la ville. Souvent, ils sont relogés dans une ville plus loin, et des fois, encore plus loin. Et ça arrive qu'ils soient jamais relogés, en fait, et qu'on les méprise totalement. Ce qui s'est passé à Saint-Denis, c'est que, voilà, il y avait, pour prendre l'exemple d'un squat qui était rue Gabriel-Péry, au 50 rue Gabriel-Péry. Donc, c'est un immeuble qui était là, qui était squatté depuis plus de 15 ans par des immigrés africains, quoi, qui n'avaient pas d'autre solution, parce que quand on n'a pas de papier, il n'y a pas de papier français, souvent les propriétaires ne veulent pas nous donner de logement. Quand on n'a pas de papier français, on peut pas, c'est très dur de travailler de manière légale et donc d'avoir des fiches de paye et donc d'avoir des garanties pour avoir un logement. Donc voilà, les gens avaient trouvé cette solution de squatter cet immeuble depuis plus de 15 ans, qui s'appelait Guantanamo, parce que les chambres étaient petites, parce que il manquait de l'eau, enfin que la mairie avait coupé l'eau, parce que l'immeuble était insalubre, et que limite c'était comme une prison, quoi, comme habiter dans une prison. Donc c'était le nom qui avait été donné à l'immeuble. Voilà, donc les habitants ont rencontré des militants de Saint-Denis au début de l'année, en janvier, qui, enfin voilà, du coup, par ce biais-là, ils ont pu apprendre qu'il y avait un arrêté d'expulsion dans le cadre du plan de rénovation du centre-ville sur cet immeuble-là. Et ils ont lutté pour demander un relogement, l'ouverture d'un volet social, demander que la mairie appuie leur démarche pour avoir des papiers pour ceux qui n'en avaient pas, parce qu'il y en a qui en avaient, il y en a qui travaillaient, il y en a qui n'en avaient pas, il y en a qui ne travaillaient pas. Donc l'immeuble a fini par être expulsé par la mairie le 7 juin 2013, sans aucune solution de relogement pour les gens. Donc cet immeuble va être détruit ou rénové, remis en vente pour des gens qui ont plus d'argent. Du coup, ils ont décidé d'occuper une tente du Festival de Saint-Denis. Donc c'est un festival de musique classique avec des billets hors de prix, donc c'est pas destiné aux habitants de Saint-Denis, c'est destiné aux Parisiens plutôt, ou aux gens qui habitent dans des banlieues plus riches. Et donc ils ont occupé une tente de ce festival-là, ils ont été expulsés par la police 2 jours après, ils ont mis un vigile pour garder la tente. Après, ils sont allés camper devant la mairie. Le 10 juin, on les a expulsés du parvis. La mairie a mis en place des barrières et embauché des vigiles de la société Première Ligne pour garder le parvis. C'est une mairie de gauche, hein, je rappelle, c'est une mairie communiste. Enfin, c'est que des mots pour la. Enfin, on a l'impression que c'est que des mots. Le 13 juin, en fait, il y a un autre immeuble de la même rue qui était le 103 rue Gabriel-Péry, qui a été expulsé aussi. Donc, les habitants de cet immeuble ont rejoint les habitants du premier immeuble sur le parvis devant la mairie. Ils dormaient dehors, quoi. Et en fait, il y a eu, depuis cette date-là, il y a eu une quinzaine d'interventions policières sur ordre de la mairie pour chasser les gens du parvis qui revenaient ensuite. Il y a eu une intervention qui a été très violente. Deux anciens habitants se sont retrouvés à l'hôpital. Ensuite, la mairie, pour essayer d'en finir avec ce campement, parce que il faut pas que la misère se voit, il faut pas que leur politique, le résultat de leur politique se voit, et donc elle a fait une procédure au tribunal administratif pour les expulser de la rue, et donc elle a gagné, et vers le 23 août, elle aura renvoyé les policiers de manière massive. Il y a 8 personnes qui ont été arrêtées, qui sont restées 4 heures au commissariat, qui sont ressorties. Le 27 août, cette fois-ci, ils ont arrêté 4 personnes qui ont fini au centre de rétention. Donc, c'est une mairie qui affiche son soutien tout le temps aux sans-papiers ou des choses comme ça. Encore une fois, on a l'impression que c'est du foutage de gueule et que c'est faux. Et elle envoie les gens au centre de rétention. Début août, pareil, il y a eu d'autres immeubles qui ont été expulsés, notamment au 20 rue Aguette. Dernièrement, en fait, dans le quartier de la gare, il y a eu un couvre-feu qui a été mis en place. En fait, il y a un plan de rénovation. En fait, la rénovation de Saint-Denis a attiré les habitants plus riches. Ça passe aussi par fermer les petits commerces.
Ça on en parlera sûrement la semaine prochaine, du plan de rénovation et de ce que ça implique, et notamment du couvre-feu qu'ils ont mis en place cet été. Ça, c'est évident qu'on en reparlera plus en détail parce que c'est vachement important.
Ouais, il nous reste le dernier sujet, quoi.
Ouais, bah voilà, en fait, voilà, c'est, on arrive vraiment dans le speed de la fin de cette émission. Je ne sais pas si Raph, tu avais vraiment fini en ce qui concerne les expulsions de la rue Gabriel Péri et de l'autre immeuble.
Voilà, c'est pour dénoncer la dualité, la duplicité, je ne sais pas comment on dit, l'hypocrisie du Parti communiste quand il est au pouvoir. C'est pas pour faire le jeu de la droite ou du Parti socialiste, c'est la même chose. Mais voilà, ce qui se passe concrètement, ce qui s'est passé cet été, c'est ça, personne n'en a parlé.
Je pense qu'on pourrait, entre guillemets, revenir sur ça dans les prochaines émissions. Je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire être occupé une mairie. Gérer la mairie, c'est gérer tout ça, y compris assumer des expulsions qui amènent que des personnes se retrouvent dans des centres de rétention. C'est une chose d'avoir un pseudo-discours de pitié sociale et de l'autre côté, eh bien, gérer concrètement ça, eh bien, ça veut dire ça aussi. Et on l'a vu dans plein de lieux, notamment Bagnolet, Montreuil, etc., etc., ce que c'est que les municipalités communistes.
Ouais, carrément. Et puis, nous, on continuera de parler de Saint-Denis, de ce qui s'est passé pendant les vacances, pendant que certains étaient en vacances, en tout cas, parce qu'il y a quand même tout un tas de choses quand même qui sont à noter sur Saint-Denis, mais qui sont révélatrices quand même du climat aujourd'hui. Là, on va passer sur tout un autre sujet, enfin, pas vraiment, en fait, c'est quand même une lutte de quartier. On avait un petit reportage à vous faire passer quand, justement, il y a des bons moments qui se partagent, au-delà de toute la merde qu'on peut vivre au quotidien, des gens qui s'organisent pour refaire revivre un quartier, pour lui donner un sens politique de solidarité, de lutte des classes. Justement, on avait un petit reportage sur une fête dans le quartier des Amandiers qui s'est déroulée début septembre. Tout ça, plus ou moins, par le collectif Quartier Libre, 12 Red Sing et bien d'autres gens du quartier. On vous fait plaisir, on vous le passe et on revient après pour la fin de l'émission.
Quartier libre,
réappropriation, ouais, solidarité. Et la suite, on n'arrive pas à lire.
Ah ouais, parce qu'il y a un monsieur devant, en fait, c'est dommage.
Faut deviner, là.
Lutte sociale, presque. Lutte libre.
Lutte des classes.
Ah oui, lutte des classes.
Lutte des classes.
Évidemment.
Bon alors, vous en pensez quoi de cette petite fête de quartier?
Ah ouais, carrément, l'interview carrément. Et tout, carrément. Bah écoute, très sympa.
Très sympa.
Ouais, très sympa, vraiment. Ça fait plaisir de voir ça dans le quartier, franchement.
Ouais.
Oh, sérieux, ouais.
Ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier.
Ouais, plutôt.
Vous avez déjà eu un truc comme ça
ou... Bah ouais, fête de quartier ou fête de voisins, mais c'était juste un repas dans la cour et puis c'est tout, c'était pas avec plein de gens différents.
Bon, Vince, tu nous racontes un peu ce qui se passe là?
Bah en fait, on voit que le quartier se réapproprie le quartier. Donc en fait, avec Quartier Libre, on a décidé d'agir un peu dans le quartier des Amandiers où on est présent depuis quand même un moment. On fait des distributions à Ménilmontant, tout ça, on commence un peu à connaître les gens. Donc on a organisé une fête de quartier, on savait pas trop comment ça allait se passer, tout ça. Et là en fait, on est arrivé, on a posé nos trucs et tout le quartier est arrivé. C'est le bordel, tout le monde est en train de kiffer, il y a des gazmers et des petits sont en train de graffer, il y a des petits sont en train d'exploser des boîtes de conserve là-bas, ils sont en train de kiffer. Voilà, c'est bien, tout le monde participe.
Ah, je confirme, c'est le bordel.
Voilà, que dire de plus. On savait pas à quoi s'attendre et là on est extrêmement réjouis de la façon dont se déroulent les choses. Il y aura une prise de parole à venir, on va donner un peu une dimension politique au truc. Donc surtout c'est à ce moment-là qu'il faudra enregistrer le bail.
Voilà. C'est cool.
La police, la police. tuer.
Et en même temps, on voit bien. Non, mais ça.
Non, je prends du souffle. T'es un graffeur?
Ouais, c'est monsieur. Ouais.
Vite fait.
Je fais partie de l'association.
C'est quoi comme association?
C'est l'association 12 Red Things.
Et tu peux m'expliquer un peu le concept?
Ouais, bah nous, en fait, on est une association comme Loi 1901, tout ça. Ouais. On essaye de promouvoir la culture hip-hop de manière un peu engagée et militante par le biais d'événements. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est des blocs parties, comme ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et voilà, c'est ça.
Et vous venez
12 Red Things.
Du 20e?
Ouais, on vient un peu de partout, mais il y a une bonne partie qui vient du 20e. Mais après, il y en a du Kremlin, Pantin, partout. Tu vois.
Cool.
Partout,
ouais. Ah, c'est cool.
On est une dizaine.
D'accord. Donc, du coup, hip-hop, ça veut dire graffiti, rap, danse, tout ce qui est lié à cette culture, quoi.
Ouais, c'est ça. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est l'unité de la culture hip-hop, tu vois. Genre, faire à chaque fois des événements où t'as tout, quoi. T'as le graff, t'as la danse, t'as la danse, t'as tout, quoi.
Yes.
Voilà. C'est ça, mais...
Allô?
Bon, on va commencer l'open mic avec un rappeur du quartier qui s'appelle Clemson. Il a 14 ans, il est chaud. Et il va commencer. C'est quoi ton son, Clemson?
C'est juste un son comme ça.
C'est comme ça, avec son millimillion, je retourne le cerveau, tu deviens dingo. J'impose mon flow comme un banco. J'impose mes rimes comme le sang de crime. Mes rimes t'abîment, super comme l'héroïne. Comme un coup de baramine dans la poitrine, je détermine. T'es ma première victime, je te déchime. T'es mon premier crime. Et ouais, ma voilà, avec mon pote en fera. Tu kiffes ou tu kiffes pas, t'inquiète pas, moi je vois pas. Je suis pas vieux juge, je vais pas faire le rageux. Je suis pas haineux, je vais pas te casser en deux. Je balance mon flow pour te retourner cerveau. Quand tu kiffes ce morceau, je te fais une photo. Avec mon mail et mes liens, je te rends complètement dingue. Quand tu balances sur scène, putain de son nom. Il paraît que pour rappeler, il faut être calmé. Ne t'inquiète pas pour ça, je me suis bien préparé. Toujours au taquet pour aller s'entraîner. Au sein des amitiés, dédicace à mes associés.
Bon alors, messieurs, dames, cette petite fête de quartier, comment vous la sentez là?
Génial,
formidable.
Génial, hein?
Dis plus que formidable.
Ah, mais on n'est pas très
exceptionnel.
Ah, argumenté,
hein. The Red Things.
C'est dingue, j'ai jamais vu ça. 500 000 personnes, c'est la folie. Ah, je sais pas quoi dire de plus, c'est juste magnifique.
Très lourd.
Les amateurs de bon hip-hop diront que je suis sensationnel. Le rap sans moi c'est comme une paire de nègres sans ses semelles. T'as peur donc mes punchlines et ton sens sommeil. Après qu'un copain tu te rêvais pas si je te suis dans ton sommeil. Je
présente la vie. Vous voulez dire un petit mot les filles?
Bah ils chantent bien, ils inventent. Et toi? Il est trop fort pour tout inventer en même temps.
C'est dur hein. Mais c'est bien la fête de quartier. Vous avez bien aimé être là aujourd'hui ou pas?
On a fait plein de choses.
Vous avez fait quoi?
On a fait des tags, on a trouvé des habits, c'est hyper sympa.
Ouais. Vous êtes venue toute seule?
Ouais.
Ah c'est cool, vous habitez dans le quartier?
Ouais.
Ah vous reviendrez la prochaine fois alors.
Ouais.
Vous voulez dire quelque chose?
Bah salut tout le monde.
Moi et mes recours, écoute, on écoute, sache les cours, je old school. Meuf tout, et donne ma peur d'après mon petit, je suis parano, je navigue sur les cours, appelle-moi. Tax va rejoindre le relapique, je veux de l'or autour du cou, ouais.
Tiennent notre stand pour un petit reportage pour la radio FPP. Ça s'est passé comment cette fête de quartier?
Alors donc c'est deux collectifs hein, qui l'ont organisé, Red Things et puis Quartier Libre. C'est la première.
Ouais.
Et donc c'est incroyablement bien quoi. Les gens ils ont le désir de se poser, de se rencontrer, de discuter entre eux. Les enfants, il y a je crois une majorité d'enfants. Ouais. Et qui s'adonnent alors librement et joyeusement aux activités qui leur sont proposées, les petites animations là autour. Hein.
C'était quoi? Tu peux nous décrire un peu, c'est quoi?
Alors les animations, bah, t'en as un certain nombre. Hein. Tu as la marelle, tu as le chamboultou, tu as aussi le craft là. T'as pas mal de jeux, hein. T'as des livres, etc. Et voilà. Et t'as surtout c'est de la musique. Maintenant, en ce moment, c'est de la musique. Et avec un comment ils appellent ça, une jam session, hein, c'est ça?
Open mic.
Open mic. Donc ça, c'est super. Moi, j'aime beaucoup, hein, parce que nous, on est habitués aux distributions gratuites de vêtements et de bouffe au niveau du collectif Quartier Libre. Mais là, c'est la première fois qu'on s'intègre réellement dans un quartier. Hein, puisqu'habituellement, on fait au niveau de la bouche de métro, Ménilmontant. Et je crois qu'on a tous le désir de renouveler ça, quoi. Parce que les gens... d'une certaine manière, comme vous voyez, hein, enfin là c'est pas visible parce que vous enregistrez, mais ils se rendent compte quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous pour, on a fabriqué ça, mais après, c'est eux qui mettent la mayonnaise quoi. Donc voilà.
Yes, vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19-20h30. Voilà, c'était un petit reportage sur la fête de quartier qui s'était passée donc vraiment dans le quartier des Amandiers dans le 20e arrondissement de Paris. C'était le 1er septembre dernier, le 1er septembre 2013 il me semble. Quand même vous dire voilà que ce reportage il sera disponible en entier sur notre site internet, c'est www.aufondpresduradiateur.fr. Et puis que voilà, on continuera de relayer. Juste petite dédicace au collectif Quartier Libre quand même qui a bien mis en place cette petite fête avec l'aide de pas mal de gens aussi.
Ouais, juste une annonce pour finir. Il y a la cantine des Pyrénées, donc c'est un lieu qui a accueilli des bouffes qui ont permis de soutenir de nombreuses luttes. Qui est en fait qui était un restaurant occupé squatté quoi, et en fait qui sont expulsables par les propriétaires actuellement, et il y a un repas samedi 21 septembre, donc samedi prochain à 12h, et une réunion à 14h pour les soutenir et pour exiger un relogement et la mise à disposition d'un local, d'un nouveau local de 100 mètres carrés pour eux et pour continuer leurs activités. Donc voilà, c'est samedi prochain pour soutenir la cantine des Pyrénées à 12h au 331 rue des Pyrénées dans le 20e à Paris. Voilà.
Yes, et ben nous c'est voilà la fin de cette émission. On était bien content de reprendre là, même en effectif réduit, ça fait grave plaisir. On vous souhaite un bon fin de mardi. On reviendra la semaine prochaine. On a quelques petites adresses www.aufondpresduradiateur.fr pour télécharger cette émission, la réécouter. On a aussi une adresse mail où voilà, vous pouvez nous joindre, nous contacter, nous envoyer des infos, des contre-infos, des critiques, des chansons, des textes, tout ce que vous voulez, c'est aufondpresduradiateur@no-log.org. On fait une grosse bise aussi à Mouloud là, qui est arrivé un petit peu en cours d'émission, à Raph qui était là. Et puis bah, à tous ceux bah, qui seront plus là dans l'émission, Mathéo, Madeleine, à Meto qui est de l'autre côté de l'Atlantique, et puis à Meto et Sarah, Canal Historique, qui seront plus parmi nous, peut-être si de nouveau parmi nous, on ne sait pas, on verra. Et puis bah, nous, à mardi prochain, la rediff vendredi 7h, 8h30, tout de suite, Zéro Hebdo à l'antenne. Et nous, c'est FPP, hein, 106.3, fréquence Paris Pluriel. Ciao!